Bonjour à ce que j'ai pu croiser. Et bien, ça me fait plaisir aussi d'être ici parmi vous et puis de pouvoir vous partager la parole au jour d'aujourd'hui. Et c'est à travers une histoire, en fait, du quotidien que nous pouvons tirer des enseignements bibliques. Et je voudrais vous partager, en fait, une histoire. Lorsque j'avais besoin de changer mon téléphone ou mon ordinateur parce qu'ils étaient cassés ou ne fonctionnaient plus très bien, d'habitude, je l'achetais au magasin neuf. Il y a quelques mois de cela, il m'a fallu changer mon téléphone, mais ce coup-ci, je ne l'ai pas acheté neuf. Je ne l'ai pas volé non plus, je l'ai acheté reconditionné. Qu'est-ce que le reconditionnement? Alors, je suis allé chercher la définition du reconditionnement, Et un téléphone reconditionné est un téléphone d'occasion qui a été utilisé pendant une période plus ou moins longue, par un particulier ou une entreprise. Suite à cet emploi, il est récupéré par des sociétés spécialisées dans la marque de ce téléphone pour le recyclage, dans le but de lui donner un second cycle de vie. Et je me suis dit, génial, fonçons. Et c'est ce que j'ai fait. Cela veut dire que mon téléphone et pas neuf, il a eu une histoire, un passé. Mais quelle est son histoire? Peut-être il a subi un choc qui a fini par briser l'écran ou la coque, ou il a été contaminé par un virus, ou la batterie ne tient plus et le téléphone est HS. Il va falloir qu'un professionnel intervienne pour le remettre en bonne et due forme, c'est-à-dire effectuer une restauration, un reconditionnement. Cette métaphore me fait penser à nos vies avec notre histoire, peut-être difficile. Nous avons tous plus ou moins vécu un brisement de cœur, la souffrance, et j'en passe. Pour s'en convaincre, il suffit simplement de regarder autour de nous. Qui n'a pas connu le rejet ou la déception? Combien de personnes vivent des situations difficiles dans leur couple ou dans leur famille? Nous sommes dans une société où règne un certain mal-être. Combien de personnes ont besoin d'être restaurées? Mais Dieu a un programme pour chacun de nous. Je vous invite à lire la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 61, et nous allons lire Ésaïe 61, versets 1 à 3, jusqu'au 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ensuite, nous pouvons lire dans Luc 4, versets 14 à 22, la réalisation de cette prophétie. Luc 4, verset 14. Je lis. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, celui qu'on vient de lire. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et l'amenèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur vie était bâtie, leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, ainsi. Jésus commence son ministère. Il a passé 40 jours dans le désert. Il a vécu la tentation de Satan. Il retourne en Galilée en enseignant dans les synagogues et se rend à Nazareth, la ville de son enfance. Nous sommes un jour de sabbat dans la synagogue de Nazareth. Jésus reprend le texte d'Ésaïe au chapitre 61, de 1 à 6, à 2, pardon, écrit il y a 700 ans auparavant. Personne n'avait jusqu'alors accompli ce qui était annoncé par Ésaïe. Quand Jésus lit ces paroles, le jour du sabbat où tout le monde se rassemble, tous les auditeurs juifs avaient les yeux arrêtés sur Jésus, surpris de voir celui qui avait passé son enfance au milieu d'eux prendre la place d'un rabbin ou d'un scribe. Et là où les auditeurs ont été le plus étonnés, c'est ce qui va venir par la suite. Au verset 16, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Autrement dit, il m'a consacré avec de l'huile. À travers la lecture de ces versets, Jésus va annoncer son programme. Si Jésus était candidat au présidentiel, à la présidentielle, nous voterions tous pour lui, car il n'y a pas un seul président qui a un programme comme celui-ci. Son œuvre touche tous les domaines de l'être et elle est le fondement pour un vrai changement et une restauration. Regardez avec moi le verset 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Telle est la mission que Dieu, le Père, avait confiée. La prophétie rédemptrice d'Ésaü réalisée. Ce passage décrit 5 sujets de restauration. Regardez avec moi ces points dans les versets 16 à 19. Jésus est venu, première restauration, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre est celui qui, par excellence, sait qu'il a besoin de l'intervention de Dieu. Jésus vient pour combler les besoins de ceux qui se confient en Dieu. Il manifestait sa bonté d'abord envers ceux qui n'ont rien et qui souffrent d'injustice. Par cette notion de pauvre, on pense aux boiteux, aux exclus, aux réfugiés, aux sans-abri, aux étrangers, aux sans-emploi, aux orphelins. C'est une image pour bien des personnes qui souffrent dans notre société. Mais même un riche peut être pauvre dans ce verset. Nous le verrons plus loin lorsque Jésus fait référence à deux personnages dont la statut social est très différente et tous les deux, pourtant, reçoivent la grâce divine. Jésus réhabilite le pauvre. Il le restaure entièrement en l'intégrant dans la famille de Dieu. Voici la bonne nouvelle. Il annonce la fin de toute injustice sociale. Deuxième restauration, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Christ est venu pour restaurer intérieurement ceux qui sont blessés. Dans la Bible, le terme du cœur ne correspond pas au sentiment, mais parle de la personnalité la plus profonde. C'est là que Dieu veut donc intervenir et apporter une guérison réelle et durable. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu va nous épargner de tous les malheurs, tels que les décès, les pertes d'un proche, des déceptions amoureuses, le divorce, la maladie ou l'accident, ou les accidents. Mais lorsque nous sommes dans cette situation, il est difficile de tourner les yeux ou notre cœur vers Dieu. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. On se demande, où est Dieu ? Nous nous renfermons sur nos malheurs, vers nos cœurs brisés. Dieu nous tend la main là où nous sommes et il prend soin de nos cœurs meurtris. Voici la bonne nouvelle. Il annonce la restauration des cœurs. Troisième restauration. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Son œuvre est aussi la délivrance pour ceux qui sont prisonniers. De quel ordre est cette délivrance? Dès le début de l'évangile de Luc, c'est le pardon de Dieu qui apporte la vraie libération. Ce sont ceux qui sont pris dans le filet du péché que le Seigneur veut délivrer. Jésus est venu apporter la guérison et la libération à ceux qui sont liés par le péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 32-36. Ainsi, il annonçait la fin de l'enfermement dans le péché et la culpabilité. Ils sont nombreux les opposants qui évoquent l'enfermement des croyants judéo-chrétiens dans la culpabilité. C'est parler sans connaître l'œuvre de la grâce qui, lorsque on l'accepte pleinement, délivre du péché et de la culpabilité. L'œuvre de la croix est folie pour les non-croyants, mais pour celui qui croit, elle est puissante de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 18. La puissance de Dieu capable de sauver et de justifier le pécheur. Voici la bonne nouvelle. Il nous a franchis et nous. Quatrième restauration. Voici une autre délivrance que Jésus va opérer. Il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il va prouver que l'aveuglement est aussi bien physique que spirituel. Son intervention sur les aveugles physiques prouve sa puissance et sa divinité, mais son but le plus profond est la guérison spirituelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Face à tous ces problèmes, à tous nos problèmes, Jésus apporte de la clarté et un équilibre. Une sagesse venue d'en haut. Cela me fait penser aux paroles de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, verset 5. La foi du croyant lui permet de voir les choses. Voici la bonne nouvelle. Il annonce le recouvrement, la restauration de la vue. Cinquième restauration. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Nous allons repartir d'où nous venions, mais avec quelque chose de nouveau. Nous sortirons de notre prison, différent, complètement transformé. Quelqu'un qui est opprimé, c'est une personne qui est soumise à une autorité répressive. Elle est alors écrasée sous la tyrannie. L'œuvre de l'ennemi, c'est d'opprimer les gens. Cette oppression peut venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un ici a fait de la prison, mais la tyrannie de l'oppression vient parfois par des chemins très subtils et invisibles. Le danger est parfois dans la maison. Il s'agit de l'enfermement dans toutes sortes de consommations, drogue, alcool, pornographique, travail, sport à outrance ou autre, mais aussi l'enfermement de notre propre personnalité que nous subissons parfois au quotidien. La délivrance annoncée ici s'accomplit à travers une personne, Jésus lui-même. Il est l'alpha et l'oméga, la parole et le pardon, la vérité et la vie, l'amour et la grâce. Voilà l'essentiel aux yeux de Dieu et pour les hommes. Jésus annonçait la fin de l'oppression. Voici la bonne nouvelle. Il nous délivre de nos pressions et nous restaure dans la liberté. Ces six domaines de restauration nous amènent à la restauration de notre âme dans une nouvelle ère, l'année de grâce du Seigneur. Regardez avec moi la fin de la prophétie. Pour publier une année de grâce du Seigneur. À la période de l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, à la fin d'un cycle d'une cinquantaine d'années, on remettait les dettes à zéro. On redistribuait les terres et on libérait les ouvriers. C'était le jubilé, Lévitique 25-10. Jésus est en train d'annoncer en quelques phrases une nouvelle ère, une nouvelle saison, une nouvelle année, une année de délivrance, une année de restauration, une année de faveur, une année de grâce, une année de repos. Nous sommes encore dans cette année de grâce. L'œuvre de Jésus pour le salut et pour toutes les restaurations de l'âme est encore accessible à celui qui croit. Voici tout le sens de la prophétie que Jésus a proclamée ce jour-là dans la synagogue à Nazareth. Ensuite, regardez avec moi au verset 20. Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Jésus interrompt sa lecture au milieu du verset 2. Nous pouvons remarquer que dans la parole donnée à Ésaïe, l'œuvre de Dieu se termine non par une année de grâce, mais par un jour de vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, verset 2. Jésus ne lit pas ce jour-là, la fin du verset 2. C'est un jour de vengeance de notre Dieu. Il termine sa lecture par l'année de grâce du Seigneur. La notion de vengeance évoquait des événements concernant l'avenir. Et Jésus voulait que ses auditeurs fassent nettement la différence entre le présent et le futur. Par cette lecture, Jésus inaugure le jour de la grâce qui dépend de son œuvre rédemptrice et de la venue de l'Esprit. Jésus s'arrête sur la grâce. Son ministère et son œuvre ont pour le but ultime de révéler son amour à tous les êtres humains, de toutes les origines géographiques et sociales. C'est de cela dont chacun a le plus besoin. C'est ce qui répond aux aspirations les plus profondes. Se savoir aimer, accepter cet amour, en être transformé. L'œuvre du Seigneur touche les domaines spirituels et les domaines moraux. Au verset 20, regardez avec moi. Alors, Jésus roula le livre, le remit au serviteur. Luc nous dit que tous les yeux étaient braqués sur Jésus. Dans l'attente de la suite, Jésus allait-il parler? Oui. Et voici ce qu'il dit. Regardez avec moi au verset 21. Il y a spécialement deux mots qui vont attirer notre attention. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le terme « aujourd'hui », ce ne sont pas juste des promesses, c'est maintenant. Le terme « accompli », ce ne sont pas juste des paroles, c'est la réalisation d'une œuvre, celle de la grâce qui restaure. C'est le jour de l'inauguration de l'année de grâce annoncée par Jésus. C'est la fin de toute injustice sociale, la guérison des cœurs brisés, la délivrance des captifs, le recouvrement de la vue, la fin de l'oppression. Une nouvelle ère a commencé ce jour-là à Nazareth. Comment est accueillie cette rédemption révélée? Toutes les personnes qui étaient réunies dans la synagogue connaissaient, oui, ce qui avait été annoncé à leurs parents et à leurs grands-parents, ce qu'ils avaient entendu depuis leur enfance, cette prophétie d'Ésaïe. Ce jour-là, la venue du Messie allait enfin se réaliser. Ils en seraient même des témoins. Mais quelle a été la réaction de tous les Juifs réunis? Regardez avec moi au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Quelque chose avait quand même frappé les Juifs de Nazareth. Tous étaient étonnés et lui rendaient témoignage en ces termes. Celui-ci n'est-elle pas le fils de Joseph? Ils l'ont vu grandir à Nazareth, le fils du charpentier, Joseph dont on connaissait toute la famille. On comprend qu'ils ressentent deux sentiments. D'une part, un étonnement ou une admiration. Les mots ont les deux sens. De cette grâce divine qui leur annonçait et qui respirait dans toutes ces paroles avec une puissance et une autorité qui les troublaient. Et d'autre part, le doute, la défiance, avec une question qui signifie quoi? Cette œuvre divine pour la délivrance de tous ceux qui souffrent dans notre humanité serait accomplie par ce jeune homme que nous avons vu grandir au milieu de nous? Ce jour-là, tout le village, tous les Juifs présents dans la synagogue pour le sabbat ont collé à leur propre représentation du Messie. Pour eux, le Messie devait arriver avec une splendeur et un éclat avec puissance. Jamais ils n'auraient pensé que le Messie, qu'une divinité céleste puisse se trouver chez le fils de ce charpentier, Joseph. Regardez comment Jésus va leur répondre au verset 23. Et là, c'est un véritable coup de tonnerre dans le ciel religieux à Nazareth. Au lieu d'apporter le calme, les paroles de Jésus scène, la tempête. Comment Jésus répond à la question des Juifs de la synagogue ? N'est-ce pas le fils de Joseph ? Au verset 23, il va citer un proverbe. Et au verset 24, il va résumer ce qui est en train de se passer. Jésus leur dit au verset 23, « Sans doute m'a piqué ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu. » Il y a d'abord un proverbe. Et puis ensuite, Jésus met en lumière la pensée de ce que les gens... Jésus sait très bien que dans la foule, il y a des gens qui vont lui demander de prouver ce qu'il a annoncé. Ils veulent des preuves. Aucun changement visible ne s'est-il produit. Ils ont du mal à prendre au sérieux ce qu'il dit. Même s'ils ont entendu sa renommée et ses miracles, c'est comme si les paroles et les secrets et les actes, pardon, de Jésus étaient parasités par ce que les gens connaissaient de lui dans sa ville. Jésus savait qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays, puisque les Juifs autrefois avaient déjà refusé de croire le message. Et au verset 25, 26, 27, Jésus va leur rappeler deux incidents de leur histoire dans l'Ancien Testament, s'appuyant non sur les miracles, mais sur les Écritures. Regardez avec moi au verset 25. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Jésus raconte l'histoire d'Élie. D'Élie, qui est dans le 1 roi 17. C'est chez elle que le prophète a été envoyé, et non pas chez l'une des nombreuses veuves d'Israël. Cette femme veuve, qui était étrangère, crut Élie sur parole. Puis Naaman, dans 2 rois 5, le général syrien lépreux, également un étranger, lequel crut finalement que Élisée était un homme de Dieu et trouva la guérison. Ces deux histoires ont un point commun, une distinction sociale entre un général et une pauvre veuve. Et il s'agit de personnes non-juives, étrangers, païens. Les Juifs présents ce jour-là refusent catégoriquement Jésus, l'homme consacré par Dieu qui annonçait la bonne nouvelle. Ils étaient aveuglés et ne voulaient pas accepter que Jésus pouvait être le Messie et que cette bonne nouvelle serait aussi venue et annoncée aux païens. Ils sont choqués de ces deux exemples et cela a provoqué quelque chose de terrible. Regardez avec moi au verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendent ces choses, cette colère prouve qu'ils ont parfaitement compris le Sauveur, mais leur orgueil ne peut pas supporter l'idée que des païens leur aient été préférés. Et ce qui va se passer par la suite est tragique. Regardez au verset 29. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le présenter. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, ce fut la goutte qui a fait déborder le vase. Imaginez le remous de la foule dans laquelle se trouvait Jésus, celui qui annonçait l'année de grâce et celle de la rédemption. La haine est entrée dans la synagogue au point de vouloir tuer Jésus. C'est ici qu'un miracle s'est finalement réalisé. Jésus s'en alla. Son heure n'était pas encore venue. Il lui fallait d'abord vivre un certain temps sur la terre pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. Prêcher aux pauvres, guérir les cœurs brisés, opérer des miracles au vu et au su de tous et secrètement dans les cœurs. Et pour toi aujourd'hui, quelle portée peut avoir cette parole de Jésus ? Jésus est celui qui vient apporter la bonne nouvelle au monde. Il vient aussi te l'apporter à toi aussi, personnellement, car devant Dieu, nous sommes pauvres, pauvres d'amour. Et Jésus vient t'apporter la chaleur de son amour. Prisonnier, prisonnier du péché, et Jésus vient te libérer par la grâce de son pardon. Aveuglé, aveuglé devant la vérité, et Jésus vient ouvrir les yeux de ton cœur. Opprimé, opprimé par toutes les pressions de la société ou par les regards des autres, Jésus vient t'apprendre à te décaler sur lui, à t'appuyer à vivre dans la confiance avec lui. Oui, en tout cela, Jésus vient te combler de ses grâces. Sais-tu les reconnaître ? Sais-tu les recevoir ? Sais-tu les vivre ? Jésus est-il vraiment ton Sauveur et Seigneur ? En écoutant cette phrase, cette parole est accomplie aujourd'hui. Avais-tu pensé qu'elle est pour toi aujourd'hui ? Rappelle-toi cette année de grâce et la délivrance que Jésus veut opérer pour toi. C'est la délivrance du péché par son sacrifice à la croix. Peu importe ton passé, Dieu peut et veut te reconstruire. Amen.